créer des emprunteurs. Et là, les notaires jouent un rôle déterminant. Et on voit bien le rôle qu'ils ont dans la circulation de l'information. D'ailleurs, avec le temps, c'est un groupe limité de notaires qui va concentrer les constitutions de rente venant des confréries. Ils se spécialisent sur ce marché-là. Il n'y a parfois aucun lien, et d'ailleurs c'est la tendance qui se développe au XVIIIe siècle, entre l'organisation qui prête et la personne qui emprunte. D'où l'intérêt du notaire de faire le lien entre les deux. J'ai trouvé des constitutions de rente en blanc, ou des constitutions de rente qui ont été raturées pour changer ou le prêteur ou l'emprunteur. C'est-à-dire, quelqu'un est allé voir un notaire en disant « une association, j'ai 1000 livres à placer », ou un agriculteur est allé voir un notaire en disant « il me faut 200 livres, etc. » à lui de faire le lien entre les deux. Et on rédige une constitution, puis au dernier moment, on change un des deux termes du contrat. Quelqu'un désire emprunter de l'argent, il en parle au notaire qu'il met en relation avec la confrérie ou le monastère qui dispose d'une somme à placer, et inversement, surtout à partir du moment où l'augmentation du volume à placer oblige à aller chercher plus loin un preneur ou à organiser une opération plus complexe. Alors, depuis le début, je parle d'emprunt, de prêt, c'est pas exactement ça, il s'agit de constitution de rente. Alors, il ne s'agit non pas de prêt proprement dit, mais de constitution de rente au denier 20, c'est-à-dire apportant un revenu de 5%. Nous ne sommes pas dans une situation du crédit, mais dans une situation de la rente. Tout le monde, en exagérant un peu, se trouve créditeur et débiteur, en général les deux à la fois, liés par des liens multiples avec des parents, des voisins, des compagnons du même métier, des organisations, comme les confrères. On n'emprunte pas, on vend une rente. Celui qui dispose d'un capital ne le prête pas, il achète un revenu. C'est une manière, à l'origine, de détourner la question du prêt-intérêt, qui est complètement réglée à l'époque moderne. Le problème ne se pose jamais, les missionnaires, les curés n'en parlent jamais. Il n'y a pas obligatoirement un transfert d'argent. Vous pouvez très bien vendre un revenu sans qu'il y ait déplacement d'argent. Vous engagez simplement à payer régulièrement à une association ou une personne une rente chaque année. Et si un jour vous voulez vous en débarrasser, là vous pourrez transférer le capital définitivement. Une cartographie du phénomène. On pourrait même parler de réseau de dette, comme cela a été envisagé en Afrique. J'ai vu un certain nombre d'articles sur la logique de dette. En tout cas, des rapports qui ne sont pas uniquement financiers. La circulation de la dette créant des solidarités au sein d'une communauté. On pourrait les cartographier à condition de dépouiller largement ce genre de sources, que je n'ai pas fait, et de les traiter informatiquement. Alors pour mon compte, j'ai eu une ambition beaucoup plus modeste. J'ai juste essayé de dessiner les zones d'influence des confréries en mesurant leur rayonnement, le cercle géographique dans lequel elles prêtent de l'argent. Toutes les associations n'en effet pas le même rayonnement. En revanche, les grosses compagnies contrôlent un secteur au sein duquel aucune autre association ne vient lui faire de la concurrence. On voit au sud le secteur de Gondrecourt, aucune autre association ne prête de l'argent sur ce secteur au même moment. Sans doute parce que la confrérie de Gondrecourt est tellement riche, tellement vaste, et puis elle possède des biens dans tous les villages de la seigneurie, qu'elle a étouffé toute autre association. Et on a d'ailleurs fondé très peu d'associations à l'époque moderne dans le secteur de Gondrecourt, tellement cette association était forte. Dans le secteur de Saint-Mihiel, on voit également un secteur relativement large, c'est parce que la congrégation d'Église Saint-Étienne rayonne très très loin, en mutualisant toutes les confréries de métiers et de chapelains de l'abbatiale, on peut rayonner très loin avec des sommes importantes. En revanche, les grosses compagnies contrôlent un secteur au sein duquel aucune association ne vient lui faire de concurrence et cette domination est durable. Pour Gondrecourt, on pourrait dessiner cette carte depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. Alors, il y a une explication, c'est que la confrérie a reçu des terres dans tous les villages de la seigneurie, des terres, des prés, des étangs, etc. Ce qui fait que, dans chaque village, même si les habitants ne sont pas adhérents de la confrérie, ils se sentent impliqués dans l'existence de cette association. Et donc, ils trouvent tout à fait naturel de lui demander un service, et d'aller lui emprunter de l'argent. On retrouve d'ailleurs la même logique que dans le secteur de Verdun. Je n'ai pas pu cartographier puisque la source révolutionnaire a disparu. Certes, les confréries ne sont qu'un élément parmi d'autres du crédit rural. Elles concentrent en moyenne, là où j'ai pu le mesurer, seulement de 10 à 15% des constitutions de rente. Ce qui montre l'intérêt d'étudier les autres organismes, d'étudier les fabriques à partir du moment où elles se développent. Elles étaient en temps très pauvres, mais à partir du XVIIIe siècle, elles se développent de manière assez puissante. toutes les organisations caritatives qui ne sont pas obligatoirement des associations religieuses, les bureaux de charité, les petits hôpitaux installés dans le milieu rural, les hôpitaux mais qui n'ont aucun médecin, qui n'ont pas de lit, qui n'ont pas de bâtiment, qui ont simplement un patrimoine qui apporte un peu de secours aux gens, mais surtout, comme les confréries prennent de l'argent. Donc en prenant tous les organismes qui existent dans le milieu rural et en dépouillant les sources sur lesquelles ont été conservées, je pense qu'on aurait une bonne idée finalement du marché de l'argent dans ce secteur. Malheureusement, on a de la chance avec les associations religieuses parce qu'elles avaient des registres. Pour des particuliers, pour d'autres organismes, ça n'est pas le cas. Donc les confréries concentrent une minorité inconsciente, sauf dans certains secteurs, comme Saint-Mihiel, comme Gondrecourt, où une association a pu à elle seule concentrer jusqu'à la moitié des contrats. Je l'ai dit tout à l'heure, la Croix de Gondrecourt a un capital financier de 14 000 livres, la congrégation de Saint-Mihiel, 26 000 livres. Sur Verdun, on a juste avant la Révolution une organisation de charité, on ne sait pas trop si c'est une confrérie ou c'est un autre statut, qui a quasiment 100 000 livres placés dans le secteur. Ce que j'ai dit pour la congrégation de la cathédrale, des choses qui sont assez importantes. Qui, combien? Je ne vais pas détailler, je parle déjà longtemps, et vous avez ça dans le dossier. Je ne dis pas le dernier point que je voulais aborder, puisqu'il est développé dans le dossier, c'est-à-dire l'analyse du public qui était concerné. Qui et combien? Retenons juste que le niveau moyen des constitutions a progressé entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, au fur et à mesure où l'on est passé d'un prêt à la consommation à un prêt à l'investissement, mais qu'il reste compris entre 200 et 300 livres. C'est une somme qui n'est pas très importante, mais qui est déjà conséquente pour un petit artisan ou pour un petit agriculteur. En Lorraine, la majorité des agriculteurs sont propriétaires de quelques hectares, mais pas assez pour faire vivre une exploitation. Donc ils sont obligés de trouver d'autres ressources. Emprunter de l'argent à la confrérie leur permettra d'acheter de nouvelles terres. C'est une somme déjà conséquente et sans être énorme, mais qui sont bien adaptées aux besoins des artisans et des petits propriétaires exploitants pour être qualifiés de classe moyenne rurale. Les confréries, pour conclure, ont en tout cas contribué à financer l'économie rurale d'Ancien Régime. Je n'en parle pas là, mais c'était montré dans le dossier. Il faudrait également évaluer le rôle qu'ont pu jouer les confréries comme pseudo-monnaie, puisque on a un contrat, on va céder à quelqu'un d'autre pour payer une dette. Et donc, ces confréries, on peut l'observer parfois, circulent dans le village pour pouvoir revenir à celui qui l'a émis. En conclusion, quelques documents. Donc, j'ai évalué l'augmentation du montant moyen dans deux secteurs. On voit que l'évolution, elle est commune. Là, dans le marquisat de Stainville, chez le Choiseul, là, en Choiseul-sur-Ain, elle est un petit peu inférieure à ce que j'ai dit, les 200 ou 300 livres. Dans d'autres secteurs, on serait un petit peu au-dessus. La distance, c'était un titre d'anecdote. La plupart, pour la confrérie de charité d'Ansois-sur-Ain, un petit village, Poligny-en-Barrois, la moitié des consignes sont placées dans le village même. La plupart sont dans un rayon de quelques kilomètres. On va rarement au-delà de 10 kilomètres, sauf au 18e siècle où les sommes deviennent un peu plus conséquentes. Mais à côté de ce village, vous avez une petite ville, une petite seigneurie, Ligny-en-Barrois. Et donc là, il y a d'autres organisations qui vont la concourser, donc elle ne va pas au-delà. Les justifications données par les débitrentiers pour cet emprunt, acheter une terre, un prêt à la consommation, payer une dette, acheter une maison. Donc on voit que plus le temps passe, plus c'est l'achat d'une terre ou l'achat d'une maison, plutôt que payer une dette ou un prêt à la consommation. Vous avez ça dans le dossier. Les raisons invoquées, on voit que le prêt à la consommation et l'apurement de dette diminuent. C'est encore relativement important maintenant. La guerre de 30 ans, les malheurs de la fin du règne de Louis XIV, donc les confréries finalement ont encore là un rôle caritatif, et elles ont un rôle purement économique dans la période suivante. Où là, le rôle de ces constitutions de rente, de ces prêts, c'est d'acheter une terre ou d'acheter une maison. Acheter une terre, on a reconstruction, et acheter une maison, puisque à cette époque, le secteur a une augmentation démographique de l'ordre de 50%. 18e siècle. Donc la population a beaucoup augmenté. Le jeune couple qui s'installe, puisqu'on est dans une région où c'est la famille nucléaire qui domine, il faudra s'acheter une maison, une part de maison pour s'installer en ménage. Donc il s'agit là vraiment de prêts à l'investissement. Alors, quelle est la profession des gens qui empruntent? J'ai pris deux exemples, un exemple rural et un exemple urbain. là, en Ansois-sur-Ornain, essentiellement des agriculteurs et des petits artisans qui sont souvent eux-mêmes un petit peu agriculteurs. Tout le monde a quelques pièces de terre, tout le monde exploite un petit peu de terre. Des agriculteurs relativement modestes, ce n'est pas les plus pauvres, ce ne sont pas les manouvriers, ce ne sont pas non plus toujours les gros laboureurs, ce ne sont pas non plus les coqs de village. À Saint-Miel, on voit là dominer la profession des artisans, des marchands, mais lorsqu'on va dans le détail, ce ne sont pas les plus gros marchands, les plus gros artisans. On ne trouvera pas les orfèvres ou les drapiers, hein, mais plutôt... Là, visiblement, dans les deux cas, il s'agit vraiment des classes moyennes, rurales et urbaines, qui empruntent de l'argent. En conclusion, quelques pistes pêle-mêle, des pistes que j'ai laissées de côté en disant que je m'y remettrai un jour. Donc je l'ai dit, c'est essayer d'étudier toutes les pensions d'un large secteur pour évaluer quantitativement et qualitativement ce qu'elles avaient pu représenter, reconstituer les réseaux sociaux sur lesquels elles s'appuyaient, voir quel est le rôle social des constitutions de rente. Et puis surtout, c'est ma conclusion, ça donne la vision que j'ai trouvée également pour d'autres pistes de recherche d'un monde rural qui est loin d'être immobile, et qui, dans ce domaine-là, n'est pas dominé entièrement par la ville, et qui trouve des solutions à ses problèmes, notamment à ses problèmes d'argent, à son besoin d'argent. Donc les communautés rurales ont été capables de s'organiser et de trouver des solutions. Alors pour finir, conclusion, dans un domaine qui n'est pas, je reviens avec moi, c'est-à-dire l'histoire purement religieuse, on remarque que la déchristianisation des campagnes commence exactement au moment où l'Église s'est privée de ce relais que constituaient les confréries vis-à-vis de la société et de l'économie. Alors, il n'y a pas une relation obligatoirement de cause à effet, mais les deux événements sont concomitants. Ce qui me fait revenir à mon propos de départ, c'est-à-dire que pour moi, le rôle social et économique des confréries expliquait leur impact religieux.
Merci beaucoup. C'est très roboratif et ça rejoint pas mal de thèmes habituels du séminaire. En fait, moi, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, j'avais plein de questions à la fois d'explication pour mon spécialité et d'approfondissement, mais je laisse les autres commencer si je souhaite, spécialiste ou non. Oui, je finis de noter.
J'ai une question. Sur la question de nombre des confréries,
oui.
J'ai l'impression qu'il y a en fait deux types de confréries, c'est-à-dire des confréries qui sont ouvertes, qui s'agrèrent dans tous les habitants du village souvent, et qui acceptent même de faire des prêts à des gens qui n'en sont pas membres. Et puis j'ai l'impression qu'il y a d'autres confréries qui sont fermées, c'est ça ?
Alors,
qui sont accaparées par quelques familles, ou j'ai pas bien
compris. Oui, alors... Il existe ces deux types de confréries, mais pas à la même époque. On a au départ la Renaissance, début du XVIIe, en fait, enfin, la grande vague de la contre-réforme, on a des confréries fermées sur un groupe de notables ou sur un groupe professionnel. Même quand la confrérie n'est pas une confrérie de métier, on se rend compte qu'elle recrute en fait qu'une catégorie d'habitants. Avec la contre-réforme, donc le modèle, c'est la confrérie ouverte qui accueille tout le monde et qui a pour but de changer le comportement religieux des gens. Ce qui ne va pas les empêcher, après, de se concentrer sur tel ou tel segment de la population. Je fais une étude sur la petite ville de Saint-Miel. On voit bien qu'il y a un marché et que les confréries et les monastères se partagent le marché. Enfin, même parfois, ils s'échangent. Un secteur de la ville, un groupe professionnel, un groupe d'âge.
Il y a un marché, vous voulez dire, un marché du crédit.
Un marché religieux. Non, un marché religieux.
C'est-à-dire,
il faut capter la population. Et on étudie le marché et on se rend compte qu'il va être plus facile de capter des gens de tel quartier ou de telle profession. Et puis voire même, on veut se spécialiser parce qu'on pense que ce sera plus efficace. Il y a des ordres religieux qui vont se spécialiser dans les femmes, qui vont se spécialiser dans les élites. Bon, à Saint-Miel, les jésuites vont se spécialiser dans les élites, les capucins dans les milieux populaires. Hein? Donc il y a une tendance à l'ouverture des confréries, même si après quand on analyse les registres de membres, on s'aperçoit qu'après les confréries vont se refermer. Se renverser sur un groupe d'âge, bon, il y a toujours plus de femmes et de plus en plus de jeunes filles, c'est la grande tendance jusqu'au 19e siècle, les hommes ont tendance à quitter au fur et à mesure où ils n'ont plus de responsabilité dans les associations. Il y a certaines familles qui prennent le contrôle, ça se passe dans les villages, qui prennent politiquement le contrôle d'une confrérie et qui vont l'utiliser comme un outil de domination dans le village. ou alors il y a un groupe de familles qui prend le contrôle et on se rencontre au même moment, ils se marient entre eux. Donc voilà, il y a des phénomènes sociologiques qui sont liés. Donc voilà le mouvement ouverture-fermeture des confraries.
J'ai une question plus économique. Est-ce qu'on peut mettre les données, les tendances que vous avez analysées en regard de données de type macro, enfin, ma question porte sur... Est-ce que vous décrivez très bien le fait que ce sont des marchés locaux ou hyper locaux même, d'ailleurs c'est excessivement intéressant de voir de quelle façon une communauté relativement restreinte arrive à, comme vous dites, traiter des problèmes de crédit, etc. Mais est-ce que globalement, ce type de constitution de rente ou de crédit pour constituer un capital qui va être la terre ou la maison, etc., est-ce que ça va contribuer d'une façon ou d'une autre à un enrichissement global, en d'autres termes? Est-ce qu'on peut suivre l'augmentation des volumes, vous montrez l'augmentation des volumes de capitaux disponibles, mais l'augmentation des volumes de crédits engagés, est-ce que ça correspond sur des périodes, sur des sous-périodes dans votre longue durée, est-ce que ça correspond à des périodes d'enrichissement global de tel ou tel territoire?
Alors, je ne vais pas étudier un détail, mais quand je compare avec vos études d'histoire économique qui ont été faites en Lorraine, on voit que globalement, j'ai parlé de la reconstruction après 1720, c'est une époque de développement agricole, c'est une époque de développement démographique, ouais. C'est le moment où les villages lorrains, qui étaient, maintenant on voit des villages rues, c'était en fait des villages, les maisons n'étaient pas jointives, et on a bouché des trous entre les maisons pour faire des villages rues. Donc la population augmentait en gros de 50%, et donc c'est concoupé. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Ça, ce n'est qu'un élément de l'ensemble, ouais. Mais... de même, avant 1630, dans la guerre de 30 ans, on voit le même mécanisme. L'âge d'or de la Lorraine, ça fonctionne aussi. Donc, quand je ne l'ai pas étudié, mes limites en histoire économique sont situées là.
Et est-ce qu'il y a des échanges avec l'extérieur? Je veux dire, est-ce que vous trouvez, ou des emprunteurs éloignés, il y en avait très peu dans vos tableaux, ou des prêteurs éloignés?
Alors, non. On est sur quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Alors, c'est vrai que là où il aurait pu avoir quelqu'un venant de loin, c'est là où il y a des sommes très importantes. Oui. Et là, par exemple, c'est les confréries de Verdun, et donc je n'ai pas j'ai des volumes globaux, je sais qu'à la Révolution il y avait ça, mais je n'ai pas le détail. Mais là, il est possible que des gens soient venus de l'extérieur. Bon. Et puis parce qu'après, est-ce que c'était lié, là où c'est pour de l'achat de terre, l'achat de maison, est-ce que c'était lié à des opérations commercial. Ouais. Bon, je sais qu'à la fin du Moyen-Âge, j'ai pas trouvé de traces après, mais j'ai pas non plus beaucoup cherché. À la fin du Moyen-Âge, on a reconstruction après, en gros, la guerre de 100 ans, des confréries, notamment des confréries de métiers, des confréries qui étaient des confréries de pelletiers, qui avaient besoin d'un moulin à foulon ou autre chose, ont financé la reconstruction des moulins. Donc il y a eu des opérations, bon, on a que quelques traces, mais donc il y a eu des opérations économiques. Tout secteur qui est voisin de la Champagne, donc l'Argonne, qui est une sorte de petit massif qui sert de zone refuge, on trouve des protestants, des jansénistes, etc. On a, puis l'époque romaine, une multiplicité de petits ateliers de métallurgie, de poterie, de verrerie. Et c'est un endroit avec l'église contrôle mal, il n'y a pas vraiment de paroisse, c'est pas vraiment de chef-lieu. Et là, les confréries sont vraiment la propriété des habitants, ça fait partie de leur identité, ça vient de se défendre de l'extérieur. Donc il se pourrait très bien, mais alors là, par contre, j'ai pas de registre. Il pourrait très bien que là, les confréries servaient à financer des activités.
D'accord.
Il y a un autre secteur en Sud-Alue, ça s'appelle la vallée de l'Assau, où encore aujourd'hui, on a de la petite métallurgie, où, de mémoire, là plus tard, peu avant la Révolution, on doit avoir un ou deux cas, hein, où il y a un lien, bon, mais bon, je l'ai plus en tête.
Ça, c'est une question petite, mais un peu connexe, donc je la pose maintenant. Comme vous le dites bien, ça donne une vision non archaïque des campagnes, en fait. Et autant que je sache, une des choses qu'on a redécouvertes sur les campagnes aussi en général, mais je ne sais pas ici, c'est la mobilité des hommes, quoi. Beaucoup de migration, y compris assez locale. Comment est-ce que ça rentre ou pas dans ce schéma qui est assez... Enfin, qui me semble assez communautaire, dans le sens où pour que la confrérie fonctionne bien, il faut un peu qu'on soit sûr que les gens sont là longtemps, et ainsi de suite. Est-ce que du coup ça exclut les populations plus mobiles, ou est-ce que ça arrive à les intégrer? Est-ce qu'on peut le savoir?
Alors, deux choses. D'abord, vous avez des confréries, c'est généralement en période de crise. Il y a des confréries qui vont développer des moyens d'intégration des nouveaux habitants. On a encore aujourd'hui dans des villages meusiens des pratiques dont les gens ignorent complètement l'origine. Vous avez une statue d'un saint, généralement c'est Saint-Sébastien, qui était un saint qui protégeait de la peste, des épidémies, des incendies, de la poudre, etc. Et puis, une tradition, c'est que cette statue passe dans les foyers. Généralement, d'une femme âgée à une femme jeune, d'un homme âgé à un homme jeune, de quelqu'un du cru à un nouvel habitant, enfin, il dépose des... Donc, c'est vraiment, le but, c'est de souder différents groupes sociaux et groupes d'âge, et puis les nouveaux habitants. Et puis, avec l'exode rural, etc., c'est devenu important. Et ça, juste aux époques de crise. Donc, ça joue encore. Par contre, ce qu'on peut voir dans d'autres associations, lorsqu'on a les registres de membres, c'est que plus la famille est installée anciennement dans le village, et plus elle est liée aux autres familles, alors il y a des familles très anciennes, mais ils sont liés avec personne, plus on est au cœur de l'association. J'ai un schéma, je le retrouve.
Oh, la belle association.
Ça retombe, juste le wagon, il me semble, juste derrière. Non, c'est pas là.
Ça rejoint un peu la question des classes moyennes, enfin, ça l'amende, mais finalement, les gens qui sont au cœur de ce système-là, c'est ceux qui sont ni trop riches ni trop pauvres et très intégrés localement, quoi, en gros.
Oui. La population mobile, c'est aussi souvent la population la plus précaire. Et donc voilà, c'est que la question que vous posez, parce qu'il y a des laboureurs, mais
oui.
La frange la plus mobile, elle est 50% pour son pas, c'est quasiment toujours les plus pauvres.
Ouais, c'est la constitution du chapitre. Je suis en train de réécrire tout ça pour le publier. C'est assez ancien, mais j'ai oublié. Bon, alors c'est déjà un peu tard. J'ai perdu la page. Ah, ouais. Bon, c'est puisque ça date du 19e siècle, une fête du Sacré-Cœur dans un petit village. J'ai classé les familles en fonction de leur représentativité dans le village, le nombre de fois ils sont mentionnés dans des mariages, et l'ancienneté de la présence dans le village. J'ai fait trois catégories. Donc, celle présente la catégorie 3, en gros, depuis l'Empire, celle présente depuis le milieu du 18e siècle et depuis le début du 18e siècle, en voyant qui se marie avec qui. On voit bien qu'on se marie avec des gens, en majorité, des gens membres de la même catégorie que soi. Catégorie 1, catégorie 2, etc. Et après, j'ai repris les adhérents des confréries, de la confrérie, et donc finalement, elle est structurée comme ça. Vous avez une famille, finalement, qui tient et le village et la confrérie, le maire, la mairie, etc., qui est lié lui-même à un groupe de familles, qui sont les plus anciens dans le village, qui sont aussi les plus nombreux dans la confrérie, et ainsi de suite, en cercle successif. Ça forme un modèle sectaire, d'ailleurs.
Oui, c'est impressionnant, oui.
On a aussi... Je l'ai là.
Et ceux qui étaient en dehors, là ?
Alors, ceux qui sont en dehors, c'est pour répondre à la question qui m'a été posée. Bon, on a une ou deux familles anciennes, mais qui sont en rupture avec les autres grands clans du village. Et c'est des familles arrivées très récemment. Donc, ils sont très peu intégrés dans le village. Donc, finalement, la confrérie, ça donne une bonne photographie du village à un moment donné. Alors, les alliances peuvent changer. Une génération après, on peut trouver une autre géopolitique locale. Thank you. schéma que je n'ai pas retrouvé. J'ai étudié le cas d'une confrérie qui est fondée vers 1720 dans un petit village. Et bizarrement, le fondateur est un nouveau venu. Le père est arrivé depuis 3 ou 4 ans dans le village, et c'est le fils qui a une vingtaine d'années qui fonde une confrérie en apportant une somme d'argent. Et puis on a les signataires, les témoins de l'acte de fondation. Et lorsqu'on étudie les sources locales, les BMS, tous les contrats qu'on peut trouver, on se rend compte que ce lignage qui vient d'arriver est en train de s'intégrer dans la paroisse. Il a plusieurs frères, plusieurs sœurs qui ont fait des mariages croisés avec les lignages importants du village, c'est d'ailleurs ceux qui signent, qui sont témoins de l'acte de fondation, et qu'en même temps, ils sont en train de prendre le pouvoir. Ils récupèrent tous les postes importants, le poste de maire, de syndic, de trésorier de la fabrique. Donc il y a la mainmise économique, la mainmise politique, la mainmise religieuse et concomitante. Et le curé est intelligent, il marie sa sœur à un frère du fondateur. Et donc il va pouvoir lui-même obtenir ce qu'il voulait dans l'église.
Donc plein de pouvoir.
Et du coup, comme vous avez étudié ça aussi sur les siècles après, est-ce qu'on voit qu'est-ce qui prend la place de ces des confréries dans le marché du crédit? Parce que, enfin, c'est intéressant ce que vous dites qu'après, elles deviennent plus strictement religieuses et donc moins influentes. Mais du coup, est-ce qu'on sait comment les gens empruntent ensuite?
Oui, c'est une bonne question. Il faudrait que je me pose. Les confréries vont d'abord perdre leur fortune à la Révolution. Et après, le modèle d'association, on a encore 1500 associations qui sont fondées au 19e et 20e siècle. Parfois, c'est la même association qui s'est refondée. Mais désormais, il n'a plus aucun bien, les laïcs n'y ont rien à faire, c'est sous le contrôle de l'évêché, et donc c'est une façon purement religieuse. Donc c'est terminé pour les confréries. Alors, on sait très bien que les premières caisses d'épargne, etc., les choses se développent au milieu rural, en Franche-Comté, en Bourgogne. Donc ça mériterait d'être étudié sur place. Alors, le seul biais que moi je connais, c'est toujours au niveau des associations de charité. On a des confréries de charité, bon, qui ont été dissoutes à la Révolution, mais en réalité, elles ont été reconstituées sous le nom de bureaux des pauvres, ou de bureaux de charité, ou sous le contrôle du conseil municipal. Souvent avec le même patrimoine, les mêmes pièces de terre. D'ailleurs, il y a des procès sous la monarchie de Juillet, un peu sous la Restauration, où les anciens confrères essayent de récupérer ce qui leur a été confisqué à la Révolution. Et l'évêque intervient de manière presque militaire dans certains cas. Donc là, il y a un relais qui se fait, sachant que ces bureaux des pauvres apportent des secours, mais ils prêtent également de l'argent. Hein. Alors là, ce sont plutôt des prêts à la consommation. Je ne l'ai pas étudié dans le détail, je n'ai pas été regarder les comptes. Donc effectivement, il faudrait aller voir.
Ce serait intéressant de voir, par exemple, dans les notaires qui s'étaient spécialisés dans la gestion des rentes des confréries, qu'est-ce qu'ils font ensuite ? Puisque finalement, c'est peut-être eux qui ont à se poser la question de vers quel prêteur envoyer les gens si c'est plus la confrérie.
Alors, c'est pas. Une hypothèse, c'est que dans le moment des ventes des biens du clergé, dans lequel il y avait bien des confréries, on a fait des évaluations. Je l'ai mis dans le tableau. Et lorsqu'il y a une mise aux enchères, on s'est vendu beaucoup à un prix bien plus élevé. Et c'est d'ailleurs au niveau des biens des confréries religieuses et des charités qu'on atteint le maximum, parfois le double ou plus. Or, en Lorraine, contrairement à d'autres régions, c'est majoritairement les paysans qui ont acheté les biens du clergé. J'ai donné une note quelque part dans l'ouest de la France, c'est seulement 15% c'est des gens venus de la ville, des officiers, des marchands qui sont venus acheter des terres en Lorraine. Là, c'est les paysans. Donc il se peut très bien que le relais après a été pris par des particuliers, hein, en s'appuyant sur ces... Alors là, c'est des petites confréries, c'est quelques terres, mais lorsque c'est le bien des monastères, lorsqu'on a vraiment un patrimoine, je pense au patrimoine de la confrérie de Gondrecourt, c'est un domaine entier qui va être transféré, parfois acheté d'un bloc par une personne. Donc à mon avis, il récupère le patrimoine, il récupère les revenus, il va récupérer les fonctions, il va prêter de l'argent. Donc je pense que, au moins pour... le premier tiers du 19e siècle, s'il y a un relais, c'est au niveau des particuliers. Puis après, il y a des organismes comme les caisses d'épargne, etc.